Emmanuel Tchibaou, nouveau président de l'UC et le nouveau bureau ont pris la parole aujourd'hui. Ils ont dressé le bilan de leur 55e congrès réuni le week-end dernier à Canala. De son côté, le Rassemblement national dévoile son projet de nouveau statut pour la Calédonie dans la République. Il présentera aussi une liste citoyenne aux prochaines provinciales. L'AFD au service des associations, l'Agence française de développement va dresser un état des lieux du monde associatif et lancer un mécénat de compétences. Des produits locaux dans les assiettes des écoliers du Grand Nouméa aujourd'hui. Sous l'égide de Newrest, le chef Alphonse Coche a concocté un menu spécial servi dans 75 établissements scolaires. Et puis un après-midi découverte pour les jeunes de la classe défense du lycée Petro à Titi. Ils étaient aujourd'hui aux côtés du NEDEX, le groupe de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. L'Union calédonienne dresse donc le bilan de son 55e congrès réuni le week-end dernier à la tribu de Mia à Canala. Le nouveau bureau s'est présenté lors d'une conférence de presse sous la présidence d'Emmanuel Tchibaou qui est traîné son nouveau mandat, Elisabeth Noir.
Emmanuel Tchibaou, entouré de son nouveau bureau que nous vous avons déjà présenté, seuls absents, le premier vice-président Pierre-Chanel Toutougoro et bien sûr le commissaire général Christian Théin qui est incarcéré en métropole. À ce titre, l'UC réclame de nouveau la libération des prisonniers et invoque aussi la présomption d'innocence. Sur le fond, elle réaffirme son objectif d'accession à la pleine souveraineté en affirmant que rien ne peut se faire sans consensus. À ce titre, elle dénonce l'organisation du troisième référendum et le projet de dégel du corps électoral qui ont entraîné, selon elle, le soulèvement du 13 mai. Mais le 55e congrès était un congrès de clarification. Et quand on est un indépendantiste, on ne peut pas faire prévaloir la violence, déclare le nouveau président Emmanuel Tchibaou.
C'était un congrès de clarification. C'était important aussi au vu de tout ce qui s'est passé après le congrès de l'île des Pins. Donc clarification parce qu'on avait besoin de se dire les choses, rappeler qu'on est un mouvement politique et que de fait, quand on est un mouvement politique, on a des obligations de respecter les valeurs qui sont portées par notre mouvement. Donc on dit accéder à la pleine souveraineté, c'est vrai, c'est pacifiquement. Parce qu'on est dans une démocratie et que, de fait, on avance aussi sur le chemin qui nous emmène vers la pleine souveraineté. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est déjà la volonté des militants de changement. Parce qu'au terme de ce qui s'est passé, il y a une défiance du politique de tous bords, une défiance aussi de la part de la jeunesse, une défiance aussi du modèle de société dans lequel beaucoup, je dirais, ne se reconnaissent plus.
Un congrès qui devait également clarifier les relations en interne, reconnaît le nouveau président de l'Union calédonienne.
Les débats étaient passionnés, mais c'était nécessaire de clarifier aussi, parce que quand on est un parti qui est tenaillé en interne par des dissensions, des tensions, qui réfractent aussi des positionnements qui sont pris par les uns, pas défendus par les autres, on se retrouve à faire le grand écart, et ça, c'est pas possible pour nous. Donc c'est ce qui fait que le mandat qui a été porté à la nouvelle équipe nous a mis, nous, membres du bureau, pour pousser un petit peu plus loin, et puis apporter peut-être plus de clarification dans le message, mieux communiquer, et surtout mieux structurer les différentes composantes du front au niveau local pour éviter la déperdition de ce que sont les consignes politiques qui naissent des motions politiques des congrès.
Le président de l'Union calédonienne qui évoque, vous l'avez entendu, une volonté d'accession à la pleine souveraineté, mais pacifiquement, parce que l'on est dans une démocratie. Dans ces conditions, pourquoi l'UC n'a-t-elle pas condamné les violences insurrectionnelles?
Il y a eu des condamnations le 14 mai par notre chef de groupe. Il y a eu des condamnations du président aussi. Alors peut-être qu'elles étaient inaudibles. C'est là aussi où on doit revoir peut-être notre stratégie de communication. Je disais tout à l'heure, on n'est pas sorti indemne de ce qui s'est passé. Pas sorti indemne parce que ce projet de citoyenneté qui a été porté au cœur même des accords de Matignon et conforté dans l'accord de Nouméa, nous sommes porteurs de ce projet-là. Et aujourd'hui, de voir un petit peu la paix sociale malmenée, le projet de citoyenneté aussi mis en difficulté par tout ce qui s'est passé, c'est là où on doit prendre des leçons quand on est indépendantiste de ce qui s'est passé, de se dire il y a certainement une part de nous qu'on a laissé dans le 13 mai, certainement une part de notre jeunesse qui a été laissée sur le côté au terme de 30 années de développement. C'est là où on se dit aujourd'hui il faut reconstruire et aller dans la poursuite des discussions. En tout cas, c'est la volonté du nouveau bureau.
Le nouveau bureau de l'UC veut donc reprendre les discussions. Sa motion de politique générale évoque un calendrier de négociation qui doit aboutir à la signature de l'accord de Kanaky au plus tard le 24 septembre 2025 pour fixer une date d'accession effective à la pleine souveraineté. Mais dans le même temps, l'Union calédonienne se dit prête à reprendre les discussions avec l'État et avec les partisans de la France pour trouver un accord avant les élections de novembre 2025.
La discussion avec l'État, c'est simple, hein, c'est qu'on est indépendantiste, la souveraineté, c'est l'État qui détient. Nos compatriotes loyalistes, ils ne sont pas responsables de la colonisation. Nous, on dit qu'ils sont porteurs d'un projet qu'ils maintiennent dans la France. Ça, c'est leur projet. Nous, on veut s'émanciper. On a cheminé ensemble en 88 avec cette perspective qui a été amorcée en disant on se donne des gages d'avancer et puis de convaincre sur la base du rééquilibrage. Mieux se former pour prendre en charge les compétences. On a acquis des compétences en 98 jusqu'en 2018 et c'est là où aujourd'hui on dit qu'il y a un pas supplémentaire à faire pour les indépendantistes, les éléments de souveraineté. C'est ce qui nous reste à discuter et puis après nos partenaires loyalistes, de toute manière, on va discuter. Il faut aussi clarifier le postulat dans lequel les échanges se font.
Emmanuel Chibaou qui précise en effet qu'à trop vouloir modifier les formats de comités destinataires en rencontre bilatérale, on se perd et il demande à l'État de poser un cadre dans lequel les trois partenaires doivent écrire la suite de l'accord de Nouméa. Lucet précise aussi que les discussions ne peuvent reprendre qu'après le congrès du FLNKS, qui reste le seul interlocuteur légitime de la mouvance indépendantiste. Apparemment, des discussions doivent avoir lieu, mais en interne, avec l'UPM et le Palika, qui, vous le savez, ont annoncé leur retrait du FLNKS.
Et signalons qu'en début de conférence de presse, l'Union calédonienne a tenu à saluer la mémoire des 7 responsables de la SMSP, dont Raphaël Pidgeot, qui ont trouvé la mort il y a 24 ans, le 28 novembre 2000, dans le crash de leur hélicoptère. Politique toujours, et le Rassemblement national dévoile lui sa feuille de route. Les représentants du parti en Nouvelle-Calédonie indiquent que Marine Le Pen suit le dossier calédonien personnellement. Il dévoile un projet de nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, statut qui ne serait pas définitif et qui ouvre la porte à de nouveaux référendums d'autodétermination. Alain Descombelle est le président du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie.
C'est un retour au dialogue qui va nous permettre de pouvoir discuter et négocier de façon plus apaisée avec le monde indépendantiste. C'est une feuille de route. Tout est discutable, mais au moins elle existe et elle a le mérite d'avoir été travaillée pendant de longs mois, alors que mes autres collègues loyalistes jusqu'à présent ne nous ont présenté aucun document. Ça ressemble à un statut qui va partir, si vous voulez, des bases que nous avons aujourd'hui et qui doit être évolutif sur des changements ou des réflexions communes qui nous permettront de mieux l'adapter à la situation sociale économique du territoire au fur et à mesure. On ne veut pas voler ce statut à nos enfants. Donc pour nous, il est important à ce que nous ne mettions pas un cliquet qui soit irréversible, sous prétexte qu'il faut trouver une solution définitive, alors qu'il faut être suffisamment intelligent pour avoir une réflexion dans le temps et qui permette d'associer d'autres générations que la nôtre.
Le Rassemblement national entend bien porter ses propositions au niveau national et aussi au niveau local. Il demande à être associé aux discussions. Il présentera une liste citoyenne, mais qui ne sera pas étiquetée Rassemblement national lors des prochaines provinciales. Et même si le parti n'a pas d'élu dans les institutions calédoniennes, il compte s'appuyer sur son poids au niveau national.
Marine Le Pen l'a exposé auprès du Premier ministre et auprès de son conseiller, M. Cadeau, où elle a fait une demande officielle à ce que nous soyons intégrés dans toutes les discussions. Elle part du principe que c'est elle qui s'occupe du dossier calédonien, elle part du principe qu'elle doit s'appuyer aussi sur son réseau donc local, ce que nous représentons aujourd'hui, et qu'il n'y a aucune raison à ce que son parti ne soit pas représenté dans toutes ces discussions. Ce que je constate, c'est que les loyalistes et les indépendantistes font des pieds et des mains pour être reçus par Marine Le Pen à Paris, et alors qu'ils voudraient qu'ici nous n'existions pas. Donc je pense qu'il faut qu'ils règlent leur vision des choses, et qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire.
Le Rassemblement national estime que les violences du 13 mai obligent à repenser le modèle social et la formation des jeunes. Parmi les propositions avancées pour sortir l'économie de l'ornière, le Rassemblement national souhaite relancer le pacte nickel et mobiliser les fonds européens. Il préconise aussi l'installation d'un EPR pour la question de l'énergie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, c'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS ne trouvent pas que la peine de 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée à l'encontre de Jacques Lallier soit trop sévère. Ils sont 14% à l'inverse à trouver que cette peine est trop sévère. Et puis notre question du jour, craignez-vous que le gouvernement de Michel Barnier soit renversé par une motion de censure? Si vous le craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rentre de Paris avec un engagement de l'État pour un soutien à la mise en œuvre du PS2R et une garantie de l'État pour un prêt de 120 milliards de francs, c'est-à-dire 1 milliard d'euros. 1 milliard, ce n'est pas la somme maximale, affirme Christopher Gigès. Il était notre invité ce matin, Elisabeth.
Christopher Gigès qui précise que cette somme de 1 milliard est ajustable si un certain nombre de réformes sont engagées. Et il souligne qu'en attendant, ce prêt va assurer le fonctionnement et même la survie de la Nouvelle-Calédonie. Il reste toutefois des incertitudes, avec notamment une DM6, une décision modificative numéro 6 au budget propre de la Nouvelle-Calédonie, qui doit intégrer 27 milliards sur les 120 milliards du prêt, et certains élus du Congrès s'opposent à ce prêt, et donc à cette décision modificative. Alors cela représente-t-il vraiment une menace sur l'adoption du budget ?
Il y a des élus du Congrès qui sont de bonne foi et qui ont des interrogations légitimes sur les conditions du prêt, sur comment le prêt va être ventilé entre les différentes collectivités. Et il y a une personne en particulier qui essaye de se refaire une santé politique en prenant peu de considération au final de la situation économique, qui est Philippe Gomès, qui essaye de détruire à peu près tout ce qui ne vient pas de lui et donc qui essaye de remonter un certain nombre d'élus du Congrès. Moi, je considère que la grande majorité des élus du Congrès sont responsables et c'est Emmanuel Moulin, donc, qui est la personne qui a été missionnée pour préfigurer la mission interministérielle, qui nous l'a dit hier en séance du gouvernement. Si cette décision modificative du budget n'est pas votée au Congrès début décembre, il n'y aura pas de salaire dans la fonction publique, il n'y aura pas de financement de chômage partiel, il n'y aura pas de financement des régimes sociaux. Et donc, on ne sait pas sur quoi ouvre ce genre de décision. Donc, je crois que la plupart des élus du Congrès, la très très grande majorité des élus du Congrès seront responsables au moment du vote.
Et cette décision modificative numéro 6 sera examinée le 11 décembre par les élus du Congrès. Une interview de Christopher Légès à retrouver en audio et en vidéo sur le site internet d'RRB.
Et demain, c'est Emmanuel Moulin, le responsable de la mission interministérielle, qui sera notre invité du matin. Interview à suivre à partir de 7h30. À propos de la DM6 dont on vient de parler, la province sud souligne dans un communiqué qu'elle paie toutes ses factures dès lors que sa trésorerie le permet. Elle rappelle que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui doit 7,8 milliards, ce qui l'empêche de régler ses factures dans un délai moyen de 20 jours, suivant la transmission de la facture, comme elle le fait depuis 5 ans. La province adresse donc son soutien aux entreprises concernées par cette situation qui n'est pas de son fait et qu'elle subit. Et elle rappelle que cette somme doit être apportée par l'État dans le cadre d'un vote prévu au Congrès le 11 décembre. Dès que cet argent sera enfin versé, la province sud indique qu'elle paiera toutes ses factures en souffrance et ce, sans doute, début janvier. Un autre rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu demain. Où en sont les différentes poursuites judiciaires depuis le déclenchement des violences insurrectionnelles le 13 mai? Comment la justice y fait face? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre dans ce contexte particulier? Nous en parlerons demain midi en compagnie du procureur de la République Yves Dupas. Il sera l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Interview à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. À propos de justice, le dernier verdict de la dernière session de l'assise de l'année. Condamné à 20 ans de prison en première instance pour avoir tué d'un coup de fusil dans le dos un ami d'enfance, l'homme qui comparaissait depuis hier a écopé en appel d'une peine un tout petit peu plus légère, 18 ans de prison. Les faits remontent à juillet 2021 et se sont déroulés à la tribu de Newa à Wailou. Cette affaire était la dernière inscrite au rôle de la cour d'assises cette année, qui ne siégera plus d'ici la fin de l'année. Il est 11h58, dans un instant, c'est la suite de l'actualité en Calédonie.
Hey, c'est l'été! Envie de vacances sans prise de tête en province sud? Sud Tourisme vous simplifie la vie avec sa nouvelle marketplace. Réservez hébergement, activités, restos, navettes et même vos billets pour les événements. Tout au même endroit. Tout est centralisé. Tout est simplifié. Tout est dans un seul panier. En solo, en famille ou entre amis, planifiez votre séjour comme vous l'aimez, facilement et en toute sérénité. Sudtourisme.nc, la première marketplace du territoire pour un séjour sur mesure.
Sudtourisme.nc, le site de réservation officiel de la destination pour un séjour sur mesure.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Jean-François Baudin.
L'AFD au soutien du collectif des associations alors que certaines d'entre elles sont en grande difficulté depuis les émeutes. Thibaut Bizien, le président du collectif des associations accompagné par d'autres présidents et membres d'associations du territoire, a échangé ce matin avec les responsables de l'AFD qui ont présenté les actions qu'ils vont mettre en place pour venir en aide aux associations. Thomas de Gubernatis est le directeur de l'Agence française de développement en Calédonie.
On a convenu de financer une étude pour objectiver en fait la situation des associations, connaître un peu mieux leur répartition au niveau sectoriel, leur modalité de financement, la part de leur financement en subvention, donc ce qu'ils perdent, leurs moyens, un moyen d'action, et puis également aussi l'impact de la crise potentiellement sur les ressources humaines. Il y a une perte de bénévolat, certains ont quitté le territoire, il y a aussi des pertes de compétences, des compétences qui sont parfois très pointues hein, dans le secteur associatif, sur la santé, le médico-social, enfin, sur la jeunesse, l'insertion professionnelle, ça ne s'improvise pas, ce sont des gens qui ont de très grandes qualités. Malheureusement, on a assez peu de visibilité, donc c'est aussi l'objet de cette étude, c'est de pouvoir vraiment mettre la lumière sur les enjeux pour plaidoyer finalement en faveur des associations.
Et pour faire face à cette perte des compétences et des bénévoles qu'évoquait Thomas de Gubernatis, l'AFD va mettre en place un mécénat de compétences. Il est destiné à encourager les salariés à donner du temps de travail pour des actions sociales. Une très bonne nouvelle pour Thibaut Bizien, le président du collectif des associations.
Ça fait du bien d'ailleurs parce qu'on n'a pas que des bonnes nouvelles dans cette période de crise. On est extrêmement impacté à bien des niveaux et c'est ce pourquoi aujourd'hui on milite. C'est à la fois pour pouvoir disposer de ressources supplémentaires et complémentaires pour pouvoir essayer de combler le déficit et de permettre de pouvoir réengager les gens sur des actions qui sont absolument nécessaires. Parce que même si aujourd'hui on est en perte de ressources, en revanche notre rôle lui est renforcé parce que si aujourd'hui on veut faire face à la crise et à ses impacts, on va avoir besoin des associations et des personnes qui s'y engagent pour pouvoir répondre aux enjeux de solidarité, de lutte contre la précarité, de lutte contre les violences, mais aussi tout simplement de trouver aussi un peu de plaisir, un peu de bonheur.
Et Thibaut Bizien et Thomas de Gubernatis ont pu s'entretenir avec Emmanuel Moulin. Ils ont échangé à ce sujet avec le chef de la délégation interministérielle. Relancer le tourisme en province sud, c'était le thème des Jeudis de l'économie ce midi. La province vient pour cela de se doter d'un nouvel outil, une plateforme ou marketplace sur laquelle le client va trouver toutes les prestations touristiques sur un même site. Une plateforme lancée il y a une semaine et les retours sont bons, a expliqué Alexandra Gambino, responsable commercialisation à Sud Tourisme, qui a porté la mise en place de cette plateforme.
En une semaine de lancement, on a déjà enregistré 50 000 vues sur la plateforme. Et alors, c'est forcément, c'est un petit peu faible pour l'instant, mais dans ces vues, il y a 80% de Nouvelle-Calédonie, mais il y a 20% d'internationaux. Donc, c'est intéressant à observer. Donc, métropolitains australiens et néo-zélandais pour l'instant. De voir qu'il y a aussi un engouement. On a déjà enregistré des réservations, plusieurs dizaines de réservations, et il y a notamment quelques réservations qui viennent du coup des marchés australiens et néo-z.
Les prestataires touristiques ont souffert de la situation créée par les émeutes, surtout qu'elle suit une période déjà difficile avec les années Covid. Mais le tourisme est un vecteur de développement économique auquel croit la province sud, qui accompagne les acteurs et les prestataires, a expliqué Flore Roudeau, chef du service tourisme à la direction du développement économique et du tourisme de la province.
On a tout un panel d'offres pour accompagner les acteurs du tourisme. On a un programme qui s'appelle le programme de professionnalisation des acteurs du tourisme. Il est en place depuis 5 ans. Son but est vraiment d'aider les prestataires touristiques à monter en compétences. On a de la formation, beaucoup de coaching. Et ces derniers temps, avec la crise, on a lancé deux nouveaux coachings qui sont un accompagnement à la reprise d'activité post-exaction. Donc en fait, on prend l'opérateur, qu'il soit touristique ou qu'il soit autre domaine d'activité. Hein, c'est toutes les entreprises de moins de 10 salariés de la province sud peuvent bénéficier de cet accompagnement-là. Et en fait, l'opérateur nous fait part de sa difficulté, nous fait part de son problème et nous, on lui envoie la personne la plus en adéquation avec son problème pour le résoudre.
Des extraits des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc. Le Nouméa Women's Forum se poursuit, il refermera ses portes demain. Aujourd'hui, les participantes ont pu se retrouver en atelier à la FOL sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin. Des femmes, chefs d'entreprise ou responsables associatifs qui ont pu partager et échanger autour de leur parcours.
Je suis chef d'entreprise Melloufa, une entreprise artisanale. Donc je propose en fait aux Calédoniens une alternative aux éponges synthétiques polluantes. Alors, c'est-à-dire que je fais pousser des éponges végétales bio issues de la loufa. J'ai appris plein de choses, mais le plus important pour moi, ce que je retiens, c'est que il y a énormément de femmes inspirantes, engagées autour de moi. Et cet espace-là qui a été ouvert, en fait, pour nous, moi, ça m'a complètement nourrie. En fait, ça me donne de l'énergie de continuer mon projet. Il y a eu énormément de témoignages de femmes qui ont osé se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont osé monter des projets où au départ, elles n'avaient pas forcément le soutien ou tous les éléments de départ, mais leur parcours était vraiment inspirant et moi, ça m'a énormément encouragée dans mon parcours.
Je représente l'association pluriethnique Créons Ensemble. C'est à Tambéa. Moi, l'économie sociale et solidaire, quand je regarde dehors, pour moi, c'est petit. Mais mardi, quand j'ai été là-bas, en fin de compte, en sortant, je me suis rendu compte que l'économie sociale et solidaire, c'est grand. Et qu'on le vit tous les jours. Et moi, je retiens le mot, il faut oser. Si tu n'oses pas, tu ne peux pas réaliser ce que tu as dans la tête.
Et demain, ce sera la dernière journée de ce 4e Nouméa Women's Forum, journée qui se déroulera au centre administratif de la province sud. Les écoliers du Grand Nouméa ont mangé local ce midi. Le fournisseur Nurest a en effet relancé une initiative qui vise à proposer des plats faits à base de produits du territoire dans les cantines, Charlotte Coulson.
Une opération née en mars cette année, et puis bien sûr interrompue, mais les équipes mobilisées n'ont pas baissé les bras. Aujourd'hui, les enfants de 75 établissements de primaire ont pu déguster un plat fait à base de produits locaux, grâce notamment au travail de Didier Maraille, directeur des opérations pour Nurest Restauration.
L'engagement de Nurest n'a pas changé, hein. C'est celui de garantir une alimentation qui soit saine, qui soit équilibrée et aussi qui ait du goût. Aujourd'hui, on a rajouté une pièce additionnelle au puzzle, c'est l'utilisation des produits du terroir. Nous pensons que plus que jamais, l'utilisation de produits locaux doit devenir un objectif pays. Donc il fallait effectivement sécuriser un approvisionnement en viande, en légumes, en fruits, pour que cette journée soit un succès aujourd'hui. 600 kg de squash transformés aujourd'hui, 1,2 tonne de viande locale, de bœuf local, et 1,1 tonne de pastèque, locale aussi.
Un repas imaginé par le chef Alphonse Coche. Il travaille pour la société Pacific Good Food et s'est réuni avec ses équipes mardi dernier pour élaborer le plat qu'il a proposé ce midi. Il s'est rendu à l'école Frédéric Surlot aujourd'hui à Nouméa pour présenter son menu et recueillir les avis des élèves.
Ils ont du concombre en entrée. Après, en plat, ils ont du riz et du bœuf sauté avec une crème squash. C'est une viande qui vient de Boulou-Paris. Et squash, par rapport à la citrouille, c'est quelque chose qui est un petit peu sucré. Et donc, en fait, on sait que les enfants, ben, voilà, ils aiment bien le sucre. Du sucre, à partir des légumes, c'est intéressant que du sucre en lui-même. Et puis après, on dessert de la pastèque. J'ai tourné un peu autour des tables, puis j'ai demandé un petit peu aux enfants. Ben, en fait, ils sont tous contents et ils sont là avec leur plat et ils mangent. Puis là, on va voir avec ceux du primaire comment ça a été.
Alors justement, les élèves du primaire, comment ont-ils trouvé le plat? C'est la question que nous leur avons également posée et les réponses étaient plutôt positives.
On est en train de manger de la salade de cocon avec du riz et du poulet, enfin du bœuf.
Alors comment tu trouves ton plat aujourd'hui?
Il est incroyable. Moi j'aime tout. C'est différent que je mange d'habitude. D'habitude, avant, à chaque fois qu'on vient à l'école et qu'on mange des plats d'ici, c'est pas aussi bon.
D'habitude, on mange plus souvent des pommes au dessert, on mange de la salade de carottes.
Le riz, ça va. Les concombres, c'est trop bon et la viande avec le squash, c'est pareil que les concombres.
Le truc que j'ai moins aimé, c'est la viande. Ce que j'ai le mieux aimé, c'est les concombres.
Merci le pito !
Merci le pito !
Une initiative qui a donc plu et qui devrait être reconduite l'année prochaine.
La dernière pause de ce journal, il est 18h08 avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région.
Ben alors, mon frère, tu vas où avec ton chapeau cow-boy, là?
Mais quoi, tu veux que j'aille où? Je démarre à Bourail, à la foire!
Eh, mais toi, là, y a pas la foire de Bourail cette année!
Comment ça, y a pas?
Ben oui, mais détends-toi! À la place, y a le Royal Caledonia Show!
À tes souhaits!
Chut, mais je dis bien! Le Royal Caledonia Show, c'est organisé par le comité de la foire de Bourail, mais à Nouméa! Ça se passe à l'hippodrome Henri Millard les 7 et 8 décembre! Les plus beaux animaux seront présents et une petite ferme pour les enfants! Y aura des stands, de l'artisanat local et même le rodéo!
Mais non! Un rodéo en plein Val-Plaisance?
Ben ça, mon frère! Et l'entrée est seulement à 300 francs!
Ok, donc là, t'es en train de me dire que ça fait une heure que je dame la benne du pick-up juste pour bouger à Val-Plaisance.
Oui, bon ben, on va mettre ça sur le dos de l'habitude,
hein. 1 million. 1 million de francs en bons d'achat à gagner sur RRB. Pour jouer, envoyez maintenant RRB au 40-20.
Tirage au sort le 30 novembre parmi tous les SMS.
1 million en bons d'achat à dépenser où vous voulez, quand vous voulez. Sans oublier les 100 000 francs de bons d'achat qui continuent de tomber chaque semaine. Alors n'attendez plus, RRB au 40-20.
371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio.
RRB, première radio d'information.
La Sud-Est au soir, Jean-François Baudin.
C'est une équipe des forces armées en Nouvelle-Calédonie particulièrement active cette année. Les membres du groupe de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs, le NEDEX, a présenté son métier aux jeunes du lycée Petro Atiti cet après-midi, Charlotte.
Ils ont choisi de s'inscrire à la classe de défense de leur lycée et découvrent tout au long de l'année les métiers de la sécurité. Cet après-midi, c'était la profession de démineur. Ils ne sont pas plus de 6 sur le territoire et pourtant leur domaine d'intervention s'étend jusqu'à Wallis et Futuna. Un privilège donc pour les jeunes de Petro Atiti de pouvoir assister à une démonstration de leur travail. Un après-midi animé entre autres par le major Patrick, chef du groupe NEDEX des Forces armées de Nouvelle-Calédonie.
Alors l'objectif de l'après-midi, c'est de partager un peu notre travail avec notre classe de défense de référence. Donc ils sont déjà venus au sein du groupe NEDEX, où on leur a présenté la menace qu'on peut retrouver notamment sur les munitions en Nouvelle-Calédonie, et après on leur a présenté tout notre matériel. Maintenant, comme vous avez pu voir, le matériel, c'est beau de le voir comme ça, mais c'est toujours plus beau de le voir fonctionner et ce que ça fait. Donc je pense que c'est intéressant pour eux, il faudra leur demander, enfin j'espère, de voir les effets que ça peut avoir et comment c'est utilisé.
Et justement, les élèves de seconde étaient plutôt impressionnés par la démonstration à laquelle ils ont assisté.
3, 2, 1. Donc là, c'est que de l'eau.
C'est que de l'eau.
Excusez-moi, mais là, c'est pas possible, il y a une grenade dedans.
Là, aujourd'hui, ils nous montrent comment les bombes sont amorcées, tout ça, comment les désamorcer, avec quel outil il faut les désamorcer. Je pensais pas qu'ils utilisaient de l'eau, je pensais pas qu'ils utilisaient autant d'outils pour pouvoir désamorcer une bombe. Moi, je pensais qu'ils coupaient les fils exactement comme il a dit, fil rouge, fil bleu.
Alors là, on est avec le NEDEX. Là, ils nous ont présenté un peu leur matériel de neutralisation sur tout ce qui est colis suspects, par exemple dans les aéroports, à tout ce qui est lieu public. Oui, franchement, ça me plaît. Le déminage, c'est un truc que je suis en train de découvrir. Et ça pourrait peut-être être dans mes plans B.
Et les élèves de la classe de défense du lycée Petro Atiti qui ont donc exploré la profession de démineur dans le cadre de leur formation visant à découvrir les métiers de la sécurité.
Le NEDEX réalise en moyenne une trentaine d'interventions par an, mais cette année, il a été particulièrement mobilisé avec 48 opérations déjà, dont l'une qui s'est déroulée ce matin et qui visait à détruire des munitions et explosifs récupérés lors des émeutes. On retrouve le major Patrick.
Le NEDEX n'est pas là pour chercher les munitions. On intervient qu'en cas de découverte fortuite et on intervient également pour détruire les munitions qui sont retrouvées lors de procédures juridiques. Là, pour vous donner un exemple, ce matin, on a détruit la totalité des munitions et explosifs qui ont été récupérés pendant les événements depuis mai 2024. On a détruit ce matin 152 bombes d'artifice. Donc c'est ce qui est utilisé par les émeutiers pour tirer en tir direct sur les forces de l'ordre. On a détruit 1525 feux d'artifice, 150 grenades de gendarmerie qui ont mal fonctionné ou qui ont été modifiées par les émeutiers. Et à ça se rajoutent également 4 boudins d'explosifs qui ont été retrouvés notamment sur les événements à Saint-Louis et des détonateurs pyrotechniques.
Et ces destructions se sont déroulées sur un lieu sécurisé de Nouville ce matin. Et puis c'était la dernière présentation au drapeau de l'année pour le RSMA à Conné. 60 jeunes volontaires ont été incorporés au régiment. La cérémonie aujourd'hui s'est déroulée sur la place des Poilus à Conné. Elle marque la fin de la formation militaire initiale des volontaires et le début de leur formation professionnelle. Elle était présidée par le lieutenant-colonel Révillon, le commandant du RSMA.
L'idée, c'est que les jeunes que nous recevons, que nous intégrons mensuellement dans nos formations professionnelles, passent un premier mois de formation qui est dédié au comportement militaire et qu'à l'issue de cette formation initiale, on les présente au drapeau, c'est-à-dire qu'on leur montre leur appartenance au régiment et aux valeurs que défendent le régiment et la République française. Ce matin, nous avions deux types de volontaires qui étaient présents à la cérémonie. Tout d'abord, les volontaires stagiaires, il y en avait 58. Ce sont des postes de formation qu'on offre aux jeunes les plus éloignés de l'emploi. Ce sont les formations traditionnelles du régiment que tout le monde connaît. Et puis, je voudrais insister aussi sur la présence de 4 volontaires techniciens. C'est un petit peu moins connu ici en Nouvelle-Calédonie, mais il faut savoir que le régiment offre des emplois à des jeunes qui sont déjà titulaires d'un diplôme et pour lesquels on essaye de leur donner un petit peu plus d'expérience professionnelle. Donc on les recrute sous la forme de contrats à durée déterminée, d'une durée d'un an et qu'on peut renouveler jusqu'à 4 fois.
Mais malgré la crise, le RSMA atteint ses objectifs puisque cette année, 505 jeunes bénéficiaires de contrats de formation professionnelle et 160 jeunes ont été employés au service du RSMA sous la forme de CDD. Cette toute dernière information, avis aux amateurs, les îles Loyauté seront à l'honneur demain et samedi. Quai Ferry, Marais, Lifou, Ouvéa présenteront près de 9 tonnes de produits agricoles, des fruits de mer et de l'artisanat. Cette vitrine des îles Loyauté sera installée demain et samedi de 8h à 18h à la gare maritime du Quai Ferry à Nouméa. 18h14, c'est l'heure de la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets.
La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, Nicolas, en tout cas pour le temps prévu ce soir et cette nuit.
Alors, cette nuit, quelques ondes persisteront en soirée sur le nord, puis se limiteront au nord-est. Ailleurs, le ciel sera plus souvent peu nuageux, mais des nuages aborderont la pointe sud des marées en cours de nuit. Sur le nord-ouest, le vent s'établira au secteur est, entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, le vent d'est-sud-est à sud-est soufflera de 15 à 20 nœuds. Les températures minimales attendues sur l'extrême sud, le sud-ouest des marées varieront entre 16 et 22 degrés. Ailleurs, elles s'échelonneront de 21 à 23 degrés. Demain matin, le soleil dominera sur l'ouest. Ailleurs, des passages nuageux circuleront, donnant temporairement par endroits un ciel très nuageux et quelques averses isolées sur la pointe sud et l'île des Pins. L'alizé s'établira au sud-est entre 15 et 20 nœuds et se renforcera en fin de matinée sur le sud-ouest entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 32, Jean-François.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est la fin de ce journal consacré, comme tous les soirs à 7 heures, à l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique.